إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 76 dans la lecture du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on est arrivé donc au point numéro 26 dans le volume 2, 24 plutôt dans le volume 2, page 562. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit wal gharad huna بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل من الهدى الذي به حياة القلوب ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا ففيهم شبه بهؤلاء وهؤلاء. Donc le cheikh il explique que le but de ce qu'on a mentionné c'est d'expliquer ce que l'islam a ramené. Al-Hanifiyya, la religion d'Abraham, Al-Hanifiyya, c'est le pur monothéisme. Donc le but c'est d'expliquer ce que la religion Al-Hanifiyya, hein, du pur monothéisme, est venue ramener comme contradiction du judaïsme dans ce qui les a atteints de la dureté du cœur, hein, vis-à-vis du rappel d'Allah. Et également, yani par rapport à ce que Allah a révélé de la guidance par laquelle il fait revivre les cœurs, il fait vivre les cœurs. Également la contradiction des avec les chrétiens et ce qu'ils ont comme monachisme innové. Et le cheikh il dit malgré que certains parmi les musulmans et qui des gens qui se disent même parmi nous appartenir à la science ou avoir une part de yani de la religion, eh bien ils ont été atteints par yani une portion, hein, de cela. Et ils ont donc une ressemblance avec cela et avec cela, c'est-à-dire soit une ressemblance avec les juifs, ou soit une ressemblance avec les chrétiens. Il dit wa mithlu hadha ma rawahu ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam غداة العقبة وهو على ناقته ألقت لي حصى ألقت لي عصى فلقدت له سبع حصيات من حصى الخدف فجعل ينقضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو في ذمه أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقاد في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. donc le cheikh il explique ici, il dit l'exemple de ce qu'on vient de mentionner, c'est comme qu'est-ce qui a été dit hein, ou qu'est-ce qui a été rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le lendemain de Al-Aqaba, alors qu'il était sur sa chamelle, il a dit: cherche-moi des petits cailloux. Alors il a dit: j'ai cherché 7 cailloux hein, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les cailloux qu'on peut yani pichenoter hein, je sais pas comment vous dites des petits cailloux que tu peux prendre comme ça entre tes doigts pour les envoyer hein. Nous on appelle ça une pichenote, je sais pas comment vous appelez ça hein, je sais même pas si c'est français pichenote. En tout cas, c'est-à-dire tu peux mettre entre ton pouce et ton index, ou entre ton pouce et ton majeur comme ça, puis tu peux l'envoyer. Énorme, comme on fait avec les billes, hein, c'est ça. Donc c'est des cailloux de cette taille-là, yani, pas plus gros qu'une bille. Alors, hein, comme un pois chiche, exactement. Barakallahu fik. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a jeté par sa main, puis il a gardé seulement ceux qui étaient de cette taille, comme tu dis, comme les pois chiches. Il a dit, c'est mentionné dans le hadith, ou bien dans les paroles des ulama, oui, je l'ai entendu moi-même, barakallahu fik, mais c'est juste que étant donné que tu m'as rappelé, donc c'est pour ça que je te dis à ce sujet, c'est exactement ça. Et ici, il dit, c'est de cette taille-là que vous devez envoyer quand on lance les jamarat. Hein? Comme il y a une partie dans le hajj, hein, il y a un endroit où on doit aller pour lancer hein, 7 cailloux, hein, qu'on appelle al-jamarat. Donc on va là-bas pour lancer ces cailloux à cet endroit. Eh bien, il y a des gens qui, au lieu de prendre des petits cailloux, ils prenaient des choses, hein, des grosses roches. Hein, et il lançait ça. Et le danger dans ça, c'est que si tu lances tes grosses roches, tu peux blesser quelqu'un. Hein? Donc, le prophète a voulu montrer hein, aux gens qu'ils ne devaient pas prendre des grosses roches, mais devaient prendre des petits cailloux, de la grosseur des pois chiches, hein, comme tu dis. Et il a dit, le cheikh, ensuite dans le hadith, le prophète a dit: ô vous les hommes, prenez garde à l'exagération dans la religion. Car ceux qui ont péri avant vous, hein, ils ont péri à cause yani, du fait qu'ils ont exagéré dans la religion. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et donc, il dit ça, c'est parmi les hadiths qui ont été rapportés selon Auf ibn Abi Jamila, selon Ziyad ibn Hussein, selon Abil Aliya, hein, selon Abdullah ibn Abbas. Et ça, c'est une authentique, hein, une chaîne authentique selon les conditions de l'imam muslim. Et le cheikh, il explique, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à l'exagération dans la religion, hein, ou à l'extrémisme dans la religion, Il dit ça, c'est général. C'est-à-dire que on doit s'écarter de toute forme d'extrémisme et d'exagération, peu importe que ce soit dans les questions de la croyance ou dans les questions des pratiques religieuses. Hein? C'est général, l'interdiction. Et il dit que al-ghulu, son sens dans la langue arabe, ça veut dire de dépasser la limite. De dépasser la limite. Et c'est-à-dire, il explique, c'est-à-dire que tu exagères ou tu augmentes dans la glorification d'une chose ou dans son blâme. Hein? Plus que qu'est-ce qu'elle mérite ou moins que qu'est-ce qu'elle mérite. Hein? Tu donnes à une chose plus que qu'est-ce qu'elle mérite comme glorification ou comme blâme. Hein? Et donc dans ce cas-là, c'est de l'exagérer. C'est qu'est-ce qu'on appelle rouleau. Rouleau. Et le cheikh, il explique ici que les chrétiens, parmi tous les différents groupes, les chrétiens sont ceux qui ont le plus d'extrémisme et d'exagération dans la croyance et dans les pratiques. Plus que tous les autres religions, tous les autres groupes qui existent parmi les groupes religieux. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que Allah a interdit l'extrémisme et l'exagération dans le Coran, eh bien c'est à propos d'eux. C'est à propos d'eux seulement que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé en disant, oh vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Il s'adressait ici aux gens du livre, c'est-à-dire aux chrétiens en particulier. Hein? Et ça s'est révélé dans le verset 171 dans Surat An-Nisa. Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Naam. Donc Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires maintenant sur qu'est-ce qu'on a lu des paroles de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit wa qawluhu wal gharad min huna wal gharad huna bayan ma ja'at bihi al-Hanifiyyah. بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة أي أننا منهيون عن التشبه بأهل الكتابين اليهود والنصارى فيما يختصون به في دينهم وعاداتهم وتقاليدهم لأن ديننا ولله الحمد فيه الغنى وفيه الكمال والتمام فلسنا بحاجة لما عند غيرنا يعني لنضيفه إلينا ونبتدع في دين الله عز وجل. Donc le cheikh explique que quand Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit que c'est pour expliquer qu'est-ce qu'il dit, c'est pour expliquer. Yani, l'objectif, c'est pour expliquer ce qui a été ramené dans la religion de l'islam au sujet de, yani, du fait de contredire les juifs dans ce qu'ils ont, dans ce dans quoi ils ont été atteints par rapport à la dureté du cœur et des choses de ce genre. Il dit, c'est parce qu'on a été interdit d'imiter les gens du livre, les gens des deux livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, dans ce qu'ils ont comme particularité dans leur religion, dans leur tradition et dans leurs coutumes. Parce que notre religion, par la grâce d'Allah, eh bien, elle nous suffit. Il y a tout ce qu'il nous faut dedans. Et elle est parfaite et complète. Et donc, on n'a pas besoin de quoi que ce soit de ce que quelqu'un d'autre possède. Hein? De quoi que ce soit de ce que quelqu'un d'autre possède dans leur religion. Yani pour l'ajouter à l'islam, ou bien pour l'innover dans la religion de l'islam, parce que la religion de l'islam, elle est déjà parfaite, elle est déjà complète. Et le cheikh, il dit, Al-Yahoud ittasafu bil-qaswati wa ghiladh al-akbad. قال تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وهذه القسوة كانت بعدما أراهم الله إحياء الموتى كما جاء في سورة البقرة وكان المفروض أن تلين قلوبهم لما يشاهدونه من قدرة الله عز وجل ولكن كان العكس والنصارى يغلب عليهم اللين، ولذلك ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم، وكلا الفريقين مذموم ومرذول. نهانا الشرع عن التشبه بهما. Donc le cheikh il dit que les juifs ils se sont ils ont reçu la caractéristique ou la description de la dureté et du fait d'avoir la rudesse, d'être rude, d'être dur, d'être rude. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Baqarah, puis leurs cœurs se sont endurcis après cela et ils sont donc devenus comme de la pierre ou plus durs encore. Et le cheikh il dit, cette dureté, c'est après que Allah subhanahu wa ta'ala leur ait montré, c'est après que Allah subhanahu wa ta'ala leur ait montré le fait de faire revivre les morts, comme c'est mentionné dans Surat Al-Baqarah. Et donc, après un tel événement, c'est-à-dire après que quelqu'un voit quelqu'un qui est mort puis qui revient à la vie devant ses yeux, la personne devait avoir le cœur adouci, le cœur plus doux et plus acceptant de la vérité, puisqu'il voit quelqu'un qui est mort qui revient à la vie. Ça, c'est un grand miracle. Mais, subhanallah, ils ont été témoins de ça, témoins de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le résultat, ça a été le contraire. Leur cœur, au lieu de s'adoucir, il s'est endurci. Tandis que les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est la douceur en général. C'est eux qui ont le plus de douceur. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le monachisme, que Allah ne leur avait pas légiféré dans la religion. Et les deux sont blâmables. Les deux groupes, les chrétiens et le groupe des juifs, les deux sont blâmables. Et les deux sont rejetés pour qu'est-ce qu'ils ont ramené comme extrémisme, exagération et innovation. Et le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous a interdit de ressembler à ces deux groupes, aux juifs et aux chrétiens. Naam. Le cheikh il dit ensuite, قوله وقد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب. هذا كما الشيخ الفوزان يقول الشيخ الفوزان تعليقا على هذا، وهذا كما مضى الحديث عنه أنه سيكون في هذه الأمة من يحذر من يحذو حذوهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعن سنة من كان قبلكم، والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذير، فلا يقال هو أمر واقع لا خلاص منه، والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذير، فلا يقال هو أمر واقع لا خلاف منه لا خلاص منه، وإنما هو من باب الإخبار الذي يتضمن النهي، ولا يقال لمن تشبه بهم أن نيته صالحة، فليست العبرة بالنيات والمقاصد، وإنما العبرة باتباع الدليل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne que certains de cette umma, parmi ceux qui prétendent appartenir à la science ou de posséder une partie de la science ou de la religion, le cheikh il commente là-dessus en disant que, comme on l'a expliqué déjà à propos du hadith précédent, qu'il y aura dans cette umma des gens qui vont être pas à pas, en train de les suivre, les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire ils vont être très proches d'eux, ils vont les imiter presque dans tout ce qu'ils font. Et le cheikh il dit, comme c'est mentionné dans le hadith, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, vous allez suivre les exemples de ceux qui vous ont précédé. Et ici il dit qu'il dit ça dans le sens que c'est l'interdiction et l'avertissement, hein, c'est dans le sens de l'interdiction et de l'avertissement. Et il dit donc qu'on ne doit pas dire c'est quelque chose qui est réel, c'est une réalité et qu'on ne peut pas s'en débarrasser, hein? Ou bien dire que qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là, c'est uniquement quelque chose dans le but de donner une information à propos de quelque chose qui n'implique pas une interdiction en soi, en voulant dire c'est pas une interdiction, c'est juste pour nous informer qu'il va y avoir ça. Comme par exemple, certains qui pensent que dans l'avenir, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il va y avoir des musulmans qui vont faire tel ou tel péché. Hein? Donc c'est une information. Mais ce n'est pas uniquement dans le sens de l'information, c'est dans le sens de la mise en garde pour qu'on ne les imite pas et qu'on ne les ressemble pas. Hein? Parce que si tu dis à quelqu'un, le prophète, quand il dit aux sahaba et quand il dit aux musulmans, vous allez suivre les juifs et les chrétiens, c'est pas pour nous informer de ça comme si c'était normal ou comme si c'était correct. Non, c'est pour nous avertir de ça dans le sens, vous allez les suivre dans le sens qu'il y a une partie des musulmans qui vont faire ça, mais que c'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est haram, et c'est quelque chose qu'il faut ne pas faire. Hein, c'est dans ce sens-là. Comme la même chose quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la division en 73 sectes, c'est la même chose. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, justement, quand il a parlé de ce hadith-là, il a mentionné justement cette question. Il a dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise qu'on va se diviser en 73 sectes, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de se diviser en 73 sectes. Mais plutôt, ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour trouver la secte qui est sur la vérité, qui est sur la sunna, qui sera sauvé. Hein? Et donc quand on dit ici que les musulmans vont, par exemple, suivre les juifs et les chrétiens, eh bien c'est pas tous les musulmans, bien entendu, mais là, disons, une grande partie des musulmans qui vont suivre les juifs et les chrétiens. Et yani, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera sur la vérité. Hein, jusqu'à la fin des temps. Donc il y a un groupe de la Ummah qui ne vont pas suivre les juifs et les chrétiens et qui vont être victorieux sur la vérité. Hein, ça c'est mentionné dans le hadith, dans un autre hadith clair et ça clarifie ce hadith-là. En voulant dire qu'il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va s'accrocher fermement au Coran et à la Sunna et qui ne va pas suivre l'exemple des juifs et des chrétiens, et c'est le groupe victorieux. Et ils seront, il y aura toujours un groupe de ceux-là, quelque part, à un moment donné, dans la Oumma, jusqu'à la fin des temps. Naam. Même si, à un moment donné, dans l'histoire, ça se peut qu'ils soient très nombreux, à d'autres moments de l'histoire, ça se peut qu'ils soient peu nombreux. À certains endroits dans le monde, ils peuvent être peu, et dans d'autres endroits dans le monde, ils peuvent être plus. Ça dépend, en fait, et c'est pour dire que, c'est pas nécessaire qu'il soit toujours à la même endroit et c'est pas toujours le même nombre. Hein? Historiquement, ça peut changer selon le moment, selon l'époque, selon le pays et ainsi de suite. Donc ça c'est dans le sens que c'est un avertissement. Et il dit par la suite, le cheikh il dit, donc on doit pas dire c'est une chose qui va se produire puis qu'on peut pas s'en échapper. On peut pas s'en échapper, on peut pas s'en débarrasser. Ou bien que c'est juste une information qui implique l'interdiction. Donc le cheikh il a expliqué ça. Il dit on ne doit pas dire à ceux qui pour ceux qui ont imité les chrétiens, il a une bonne intention. Il n'avait pas l'intention de les imiter. Hein, il avait une bonne intention. Parce que le cheikh il dit ici la question c'est pas une question d'intention et d'objectif. Ici, la question c'est de suivre la preuve et de se baser sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre son exemple. Hein? Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Et le cheikh Ibn Taymiyyah va donner ces exemples-là aussi. Mais juste pour vous mentionner, comme pour simplifier la compréhension, il a dit par exemple, ne priez pas après le lever du soleil, parce que après le lever du soleil, c'est-à-dire entre le lever du soleil puis, qu'est-ce qu'on appelle Ash-Shuruq, le moment où le soleil sort de l'horizon, puis au moment jusqu'à ce qu'il s'élève plus haut dans le ciel, eh bien à ce moment-là, c'est le moment où les gens qui adorent le soleil, les idolâtres, ils adorent le soleil à ce moment-là. Donc il a dit, dans ce cas-là, vous ne faites pas de prière surérogatoire à ce moment-là, parce que c'est le moment où les mouchriquins adorent le soleil. Donc quelqu'un pourrait dire, moi mon intention c'est pas d'adorer le soleil, donc je vais adorer ou je vais faire rak'atayn à ce moment-là quand même. Et le cheikh, ça qu'il explique ici, c'est que c'est pas ton intention qui change quoi que ce soit là-dedans. C'est le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, même si c'est pas ton intention, le fait de prier à ce moment-là, quelqu'un qui te voit prier à ce moment-là, qui n'est pas musulman, qui ne connaît pas l'islam ou qui ne comprend pas, peut-être qu'il va s'imaginer que tu es en train d'adorer le soleil. Donc même si ce n'est pas ton intention, tu ne dois pas le faire. Et puis il risquerait de, par exemple, comme tu dis, t'imiter. Allah musta'an. Après le cheikh, il dit « Wa qawluhu al-qitli hasa » فلقدت له سبع حصيات من حصى الخذف. الشيخ يكسبليك سا يعني ليست كبيرة يعني, وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى لا تضل عن دينها فتخرج عن الجادة بغلو أو بتساهل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر في كل مناسبة أمته من التشبه بأهل الكتاب. ومن ذلك أنه لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة صبيحة يوم العيد, أمر الفضل ابن عباس أن يلقط له حصى جمرة العقبة. أي نعم. وهذا فيه أن الحصى لا يقتصر على التقاطه من مزدلفة, وإنما يؤخذ من الطريق أو من منى. يعني لقط له الفضل سبع حصيات يرمي بها جمرة العقبة, ودل على أنه لا يتعين أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة من مكان واحد, وإنما يلتقط حصى يعني كل يوم, حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه من الحرم. أما صفة هذه الحصيات فهي أمثال حصى الخذف, أي ما يخذف على رؤوس الأصابع. وقد حدد العلماء بأنه أكبر من حب الحمص بقليل, فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات ونفخ فيها. أي نعم. ثم قال أمثال هؤلاء فرموا, يعني في الحجم. وقال وإياكم والغلو. Donc le cheikh il dit que ensuite, quand il dit, comme c'est mentionné dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit que il a demandé qu'on lui cherche des petits cailloux, hein, 7 cailloux, et le cheikh il dit ça veut dire des cailloux qui sont pas trop gros, des cailloux qui sont pas trop gros, comme hasa al-khadf, les cailloux qu'on peut prendre pour pichenoter, comme on dit. Puis après le cheikh il dit ça montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intérêt pour sa umma du bien pour, de sa Ummah, pour pas qu'il s'égare de sa religion. Et donc, pour pas qu'il s'égare de la religion, pour pas qu'il sorte du droit chemin par de l'exagération ou par du laxisme. Hein? Et donc, pourquoi? Parce que c'est ce que les gens des deux livres ont fait avant nous. Les juifs et les chrétiens, eh bien, ils ont eu de l'exagération et de l'extrémisme, et c'est à cause de ça ils ont dévié, donc pour pas qu'on devienne comme eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde à chaque occasion, il mettait sa umma en garde contre le danger d'imiter les juifs et les chrétiens, hein, les gens du livre. Et c'est l'exemple ici, il dit que lorsqu'ils partaient tous, tout le monde déferlait vers Muzdalifa le matin du jour de Eid. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à son cousin, Al-Fadl ibn Abbas, de chercher pour lui des cailloux, pour lancer sur Jamrat al-Aqaba. Et il dit que ça, c'est la preuve que on n'est pas limité à chercher des cailloux seulement à Muzdalifa. On peut chercher les cailloux même sur le chemin vers Muzdalifa, et même à partir de Mina, on peut commencer à chercher ces cailloux-là. Et il est même permis, c'est ça, de les prendre sur le chemin ou bien à Mina. Puis il dit donc, Al-Fadl, son cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Fadl, il a donc pris 7 cailloux pour lancer à Jamrat al-Aqaba. Et donc il dit que ça aussi c'est la preuve que c'est pas obligatoire que chaque personne prenne les 7 cailloux pour les 3 jours d'un seul endroit, parce que on doit retourner 3 jours de suite pour lancer les cailloux à Jamrat al-Aqaba. Oui, donc 7 cailloux fois 3 ça fait 21. Donc il disait, c'est pas nécessaire qu'on les prenne tous ces cailloux-là du même endroit, mais on peut pour chaque jour les prendre, chaque jour lorsqu'on y va, les prendre de l'endroit dans lequel on est, et ça suffit. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne la description de ces cailloux, eh bien, ils doivent être comme les cailloux qu'on peut lancer avec les doigts, avec le bout des doigts. Et les ulama ont défini ou ont détaillé que c'est des cailloux qui sont un peu plus gros que le pois chiche, comme tu dis, comme tu disais tout à l'heure. Et il dit légèrement plus gros que le pois chiche. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris donc ces cailloux, il a soufflé dessus, puis il a dit, voilà des cailloux, comment vous devez prendre ou ce que vous devez utiliser comme cailloux pour lancer. C'est ces cailloux-là que vous devez lancer. En voulant dire, c'est de cette grosseur-là. Et ensuite il a dit, et prenez garde à l'extrémisme et à l'exagération. Parce que quelqu'un pourrait voir ces cailloux-là puis dire, ah, ça c'est trop petit. Quelqu'un pourrait voir ces cailloux-là puis dire, c'est trop petit, ça sert pas, il faut que ce soit plus gros, donc il va comme chercher des gros cailloux. Il veut laisser sa marque, il veut laisser son empreinte en lançant des gros cailloux, se faire remarquer peut-être. C'est ça. Exactement. Donc c'est pour suivre la sunna. Donc c'est pas pour rien d'autre que ça. Donc le cheikh il dit wa iyyakum wal ghulu li an la yara ahad an mithl hadhihi al hasaya saghira wa annaha la tafi bil gharad فيختار حجارة أكبر منها، فإن هذا هو الغلو والتنطع في دين الله، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو عموما، وإن كان السبب في هذه الحصيات، يعني فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Donc le cheikh il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez garde à l'extrémisme et à l'exagération, c'est pour pas que les gens pensent que ça c'est des cailloux trop petits, hein, et que ça remplit pas le but ou l'objectif ou le besoin. Alors il choisit des grosses pierres, hein, des roches ou des pierres plus grosses que ces petits cailloux. Et ça c'est de l'extrémisme et c'est de l'exagération dans la religion d'Allah. Et c'est de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde en parlant de l'exagération et de l'extrémisme en général. Il dit parce que il dit wa in kana as-sabab fi hadhihi al-hasayat fal-ibratu wa in kana as-sabab fi hadhihi al-hasayat فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Donc même si il faut savoir que cet avertissement ou cette mise en garde contre l'extrémisme et l'exagération, c'est pas uniquement à cause des pierres ou des cailloux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de prendre. Même si ça a été mentionné dans ce contexte à cause de ça, mais l'avertissement ou la mise en garde, elle est générale pour tout dans la religion au complet. Et yani, c'est un avertissement contre l'exagération et l'extrémisme de façon générale. Parce que les ulama, ils emploient une règle, et cette règle, ça dit que yani, on prend par rapport au sens général du verset et non pas la cause spécifique de la révélation du verset. Yani, le sens général qui est important à prendre en considération, et non pas la raison pour laquelle le verset a été révélé seulement. Hein, comme par exemple, peut-être qu'un verset, par exemple dans le Coran, il a été révélé par rapport à tel événement ou telle chose dans le Coran, ou à propos de tel sahabi. Hein. Mais ça ne veut pas dire que ça s'adresse seulement à ce sahabi et à cet événement-là. Toute autre situation ou toute autre personne qui serait dans la même situation ou qui rentre dans les mêmes caractéristiques, eh bien, le verset s'applique pour lui quand même. Et donc ici, c'est pour ça que ceux qui par exemple diraient non, il n'y a pas de mal, c'est seulement l'extrémisme dans ou l'exagération dans les roches qui est mentionné dans le hadith. Oui, c'est mentionné à propos des roches, mais c'est pas spécifique à ça seulement, c'est général. Parce que le sens de l'interdiction, elle est générale de la mise en garde, elle est générale dans le hadith. Il dit, wa qawluhu wa iyyakum wal ghulu. Fa inna az-ziyadata 'ala al-miqdar min al-hasa wa hajmiha wa hadha aydan fi jami' umur al-ibadat. فإنما أهلك من كان قبلكم يعني بذلك أهل الكتاب أهل الكتاب ولذا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فالله حذر أهل الكتاب من الغلو ومن ذلك غلو النصارى ومن ذلك غلو النصارى في المسيح حيث قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون ولهذا قال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. Donc le cheikh explique que ici, prenez garde à l'exagération, c'est par rapport dans le contexte du hadith à la grosseur des cailloux, et il dit, et aussi dans toutes les questions de l'adoration en général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est les gens qui ont péri avant vous, parmi les gens du livre, ils ont uniquement dévié ou péri à cause de leur extrémisme dans la religion. Et le cheikh explique ça par rapport aux versets qui sont mentionnés dans le Coran à ce sujet-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh, gens du livre, n'exagérez pas, ne soyez pas extrémistes dans votre religion et ne dites à propos d'Allah que la vérité. » Et dans un autre verset, il dit « Oh, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas à propos d'Allah, hein, ou ne dites à propos d'Allah que la vérité. » Et l'autre verset, n'exagérez pas dans votre religion autre que la vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a averti les gens du livre contre l'exagération et l'extrémisme. Et ça, c'est comme par exemple l'exagération des chrétiens lorsqu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Isa, c'est Allah. Il y en a parmi les chrétiens qui disent Jésus, c'est Dieu. Hein? Ils disent Innahu Allah. Ils disent Isa ou Allah. A'udhu billah. Il y en a d'autres qui disent Isa ibn Allah. Il y en a d'autres chrétiens qui vont dire non, c'est pas Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Dieu. Pardon. Il y en a qui vont dire Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a d'autres qui vont dire que Isa, c'est le fils de Dieu. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent que c'est Dieu. Il y en a qui disent que c'est le fils de Dieu. Et il y en a d'autres qui disent que c'est le troisième du trois, c'est-à-dire par rapport à la Trinité. Ceux qui disent, par exemple, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que les trois forment un, hein, et que donc il est un des trois. Donc tout ça, c'est yani des paroles de kufr et de shirk. Et souvent yani, comme par exemple quand tu veux parler avec des chrétiens, tu les réfutes sur yani leur fausse croyance, surtout par rapport à Jésus. Et bien yani, si tu leur dis, vous les chrétiens, vous dites que Jésus c'est Dieu. Et là, il y en a beaucoup parmi eux qui disent non, on ne dit pas qu'il est Dieu, on dit qu'il est fils de Dieu. Hein? Et tu vois que c'est parce que, pourquoi? Parce que pour eux c'est très mélangeant. Ils sont très confus dans ça. Parce qu'en réalité, ceux qui disent non, c'est pas Dieu, c'est le fils de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas toujours les dogmes de leur religion. Et en fait, l'Église, elle, qu'est-ce qu'elle enseigne dans leurs enseignements, que ce soit l'Église protestante ou l'Église catholique, eh bien, qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est que Jésus, c'est Dieu et le Fils de Dieu en même temps. Parce que les trois sont un. Hein? Et que les trois sont éternels. Le Père et le Fils. Les deux sont éternels, plus le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comment ils le définissent? Ben, ils disent c'est un esprit de Dieu. Hein, comment il explique, ils disent c'est son esprit, mais il l'explique pas vraiment. Il le représente des fois par une colombe ou par un oiseau ou des trucs comme ça, mais c'est pas clair qu'est-ce que c'est pour eux. Alors que non, c'est vrai, c'est souvent vous voyez les chrétiens, ils font des photos d'un oiseau blanc, hein, ils font ça pour représenter l'Esprit Saint. Mais c'est pas clair pour eux qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint. Tandis que pour les musulmans, c'est des choses claires. Puisque dans l'islam, nous on dit, hein, Jésus, c'est le messager d'Allah. Hein, c'est un prophète et un messager. Et l'Esprit Saint, c'est Jibril, alayhi salam, Ruh al-Qudus. Hein, et c'est lui qui est chargé de transmettre la révélation d'Allah aux messagers. Et il y a donc ensuite c'est bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître, le créateur, hein, et le seul qui mérite d'être adoré. Donc pour nous il n'y a pas de trinité, hein, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul Dieu et le seul maître, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et personne n'a le droit de recevoir quoi que ce soit des différentes formes d'adoration à part Allah, hein. Donc hein, c'est un Dieu unique et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et tout ce qui peut être adoré en dehors de lui est faux, dans le sens qu'il n'a pas le droit d'être adoré, même si c'est un prophète comme, ou un messager comme Jésus, hein, ou même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Abraham, ou Moïse, ou Jacob, ou Isaac, ou même un ange rapproché d'Allah, hein, comme Djibril, ou Mikaïl, ou peu importe, hein, ils n'ont pas le droit d'être adorés en dehors d'Allah, hein, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Donc tout ça pour dire que les chrétiens, eux, sont tombés dans l'extrémisme, dans ces questions-là. À propos même de la foi en Allah, ils sont tombés dans l'extrémisme parce qu'ils ont élevé Jésus au niveau d'un Dieu ou d'une divinité, hein, ou de fils de Dieu. Et ça c'est, comme on l'a déjà expliqué, c'est l'imitation des mouchriquines qui étaient là avant, comme les hindous et les grecs et les romains. Hein, les Grecs et les Romains, ils, dans leur mythologie, hein, ils avaient ces notions de, que Dieu avait des fils et des que Dieu avait des femmes et des fils, et qu'il se reproduisait avec des femmes, qu'il avait des enfants. Puis ces enfants-là devenaient des qu'est-ce qu'ils appellent des demi-dieux ou des héros, hein, des héros dans la mythologie. Et chez les Grecs, il y avait des trucs chez les Romains et les Grecs, il y avait comme Hercule, Persée. Bon, ça c'est dans la mythologie. Ouais, non, c'est ça, c'est dans les histoires, là, les légendes, les mythologies. Mais eux, quand ils avaient un héros, que si c'était un guerrier, quelqu'un qui était très très fort, donc ils inventaient une histoire à son sujet en disant, oh, lui c'était sûrement le fils d'un dieu. C'est ça, Zeus. Même le mot Dieu, ça vient de Zeus. Hein. J'étais surpris de savoir ça, mais en réalité, le mot Dieu, il vient de Zeus. Et même Jupiter vient de Zeus aussi. Hein, vient de Zeus. Donc, c'est comme le nom qu'ils avaient pour le plus fort des dieux, le plus fort, le père. Puis ils avaient, Zeus, il a des enfants. Il a des enfants, il a des femmes, il a même des frères, et il a un père aussi. Hein? Cronos, il a même un père. Hein? Oui, donc tu vois que leurs notions qu'ils ont, les notions qu'ils ont de Dieu, c'est pas la notion des prophètes, c'est pas qu'est-ce qui a été enseigné par les messagers d'Allah. Ils ne connaissent pas le tawhid. Et c'est pour ça, donc, quand les histoires, par exemple, ont été inventées à propos d'Isa, et que les gens ont commencé à raconter n'importe quoi à propos d'Isa ibn Maryam, hein, et que les gens ont commencé à dire qu'il était le fils de Dieu, ou qu'il était Dieu incarné, ou des trucs comme ça, tu vois clairement que c'était des influences des gens qui avaient, il n'y avait aucune notion de tawhid et de l'enseignement des prophètes, et parce que dans leur religion préalable en Europe ils avaient ces notions là, ces idées là.
Est-ce que l'hindouisme est venu avant le christianisme, ou est-ce que c'est le christianisme qui était là avant l'hindouisme?
L'hindouisme, d'après moi, il existait avant. Il existait avant, mais il faut savoir que la première religion qui existait sur terre, c'est le tawhid. Parce que la première religion que Allah a enseignée au premier homme, Adam alayhi salam, c'est le tawhid. Hein? Donc, même les ulama ont expliqué que, après Adam alayhi salam, toute l'humanité était sur le tawhid jusqu'à Nuh. Jusqu'à l'époque de Nuh, et c'est à l'époque de Nuh que les gens sont tombés dans le shirk, et c'est pour ça que à partir de Nuh, il y a eu des messagers pour les rappeler au tawhid. Naam. Donc c'est ça, tout le shirk qui est arrivé, c'est arrivé après Nuh. Puis les gens, c'est quand les gens ont commencé à prendre entre eux et Allah des intermédiaires et des hommes pieux pour se rapprocher d'Allah. Donc c'est comme ça que le shirk est entré dans la Ummah, à cause de l'exagération des hommes à propos des hommes pieux. Et le cheikh donc il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de tout ce que ces gens-là disent par rapport à Jésus. Lorsqu'ils disent qu'il est, il est Allah, ou lorsqu'ils disent qu'il est le fils d'Allah, ou lorsqu'ils disent que c'est, il est un des trois divinités, ou une des trois divinités, ou quelque chose comme ça, yani, ou une part de la Trinité, ou peu importe comment ils peuvent l'appeler. Puis après, le cheikh, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement par rapport à ça, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Certes, Isa, le fils de Marie, le Messie, est un messager d'Allah, et une parole qu'il a mis en Mariam, et une âme venant de lui. Alors croyez en Allah et en son messager, et ne dites pas trois. Cessez, cela est meilleur pour vous. Allah n'est qu'une divinité unique. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Gloire à lui, qu'il soit purifié, d'avoir un fils. Qu'il soit purifié d'avoir un fils. Alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Donc tout par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala est une création et une possession. Et donc il n'a pas de fils. Il a tout créé. Donc il n'a pas d'enfant. C'est pas comme des êtres humains, des animaux qui se reproduisent avec des échanges entre un homme et une femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'humanité, il a créé l'univers, il a créé les animaux, il a créé les plantes, il a créé toutes choses. Les choses vivantes et les choses inertes. Et il n'a aucun lien de parenté avec aucune de ses créatures. Et le cheikh il dit ensuite, والغلو قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح عليه السلام وقد يكون في العبادة كرهبانيتهم التي ابتدعوها وقد يكون الغلو في الأحكام بأن يجعل المباح حراما أو ما أشبه ذلك من مجاوزة الحكم الشرعي ونحن منهيون عن الغلو بجميع أنواعه لأنه أهلك من كان قبلنا. Non. Donc le cheikh il dit que l'extrémisme, ça se peut que ce soit à propos de certains individus, comme l'extrémisme des chrétiens par rapport au Messie, Jésus. Ça c'est un exemple d'extrémisme. Et ça se peut également que l'extrémisme soit dans l'adoration. Donc, ça peut être dans la croyance par rapport à quelqu'un. Ça peut aussi être dans l'adoration, comme le cas des moines et des monastères. Des sœurs religieuses et des choses comme ça qui se consacrent uniquement à prier et à jeûner et à faire des actes d'adoration. Ça c'est des choses qu'on appelle yani bid'a, c'est des innovations. Et ça se peut aussi que l'extrémisme soit dans les règles, dans le sens que qu'est-ce qui est halal et haram. Ça aussi ça peut tomber dans l'extrémisme lorsque quelqu'un par exemple, quelque chose est permis, lui, il le rend haram. Lorsque quelque chose est permis, lui, il veut le rendre haram. Ça, c'est de l'extrémisme. Et ça fait penser au fait de dépasser la limite dans le jugement de la charia. Et nous, on est interdit de toutes ces différentes formes de charia parce que ceux qui ont péri avant nous, ils ont péri à cause de ça. Et la question de Mujawazat al-Hukm al-Shar'i, ça c'est quelque chose qui est courant chez les chrétiens. Tu vas voir que parmi les chrétiens, il y en a qui se sont divisés en sectes, juste par rapport à justement certains groupes parmi eux qui rendent haram ce qui est halal, ou qui rendent halal ce qui est haram, ou qui rendent halal ce qui est haram, ou haram ce qui est halal. Donc ils vont dire par exemple, telle secte chrétienne, eux, ils considèrent que ça, c'est interdit. Donc, à cause de ça, ils ont fait une nouvelle secte, à cause d'une interdiction comme ça, par exemple. Et un autre groupe, ils vont dire, eux, ils ont rendu telle chose licite, telle chose, c'est permis pour eux. Donc c'est devenu une autre secte. Yani, c'est comme ça chez les chrétiens, tu retrouves souvent ça. Non, et non, c'est ça, tu ne vas pas trouver grande différence. Comme tu vas voir une secte chrétienne, ils vont dire, ah mais eux, ils ne mangent pas de porc. Et ils vont dire, le dimanche, ils ont pas, le samedi, ils n'ont pas le droit de travailler. Au lieu du dimanche. Hein? Les adventistes, par exemple, ils disent ça. C'est ça. Donc, ils ont comme des règles comme ça. Ils disent, oh, on n'a pas le droit de porter de l'or. Hein, les femmes n'ont pas le droit de porter d'or ou des bijoux, des choses comme ça. N'ont pas le droit de porter de pantalon. Ils font une secte. Ils se divisent à cause de ça. Donc, chez les musulmans, hein, chez les musulmans, des fois, tu trouves ce genre d'attitude-là, mais par ignorance. Comme par exemple, il y en a qui vont dire, ah, ça c'est des, par exemple, des musulmans qui sont parmi les Awam et qui ne connaissent pas la salafie, ils ne connaissent pas les règles du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Alors ils vont dire, ah, certains musulmans comme, ah, eux, ils n'écoutent pas la télé. Hein? Ils vont dire des salafis, ça c'est quelqu'un que je connais qui m'a dit qu'il y en a certains parmi les musulmans d'un pays en particulier, eux, ils disent, ah, les salafis, c'est ceux qui font telle chose. Par exemple, on va dire, ah, les salafis, ils n'écoutent pas la télé, ou ils n'ont pas de télé. Et c'est ça pour eux qui distinguent c'est quoi le salafi puis pas salafi. Mais c'est de l'ignorance. Dans le sens que quelqu'un peut ne pas avoir une télé, puis il est salafi. Ou bien il n'est pas salafi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de télé, qu'il est salafi nécessairement. Puis ça ne veut pas dire qu'il en a une, qu'il n'est pas salafi non plus. Hein? Donc ça n'a rien à voir. Ou comme tu dis les pantalons, bon, ça c'est par rapport à l'isbal, c'est clair que il y a des salafis qui laissent traîner parfois leurs pantalons en bas de la cheville et ça c'est haram. Mais yani, ils vont pas, en général ils vont pas le rendre halal. Ils vont pas dire ça c'est permis. C'est ça la différence. C'est que en fait souvent c'est que il y a des gens qui parmi les salafis vont se permettre par exemple de dans le sens qu'ils vont commettre certains péchés. Mais si tu leur demandes, est-ce que ça, ce péché-là, c'est permis dans l'islam, ils vont pas dire oui. Ils vont dire non, c'est vrai, ça c'est haram, on le sait, mais ils vont sûrement mentionner qu'il y a une raison pourquoi ils l'ont pas fait, puis ils reconnaissent qu'ils sont dans le tort. Hein? En général, c'est comme ça. Ou bien, ils vont pas interdire, par exemple, quelque chose qui est permis dans la religion. Ça va, par exemple, si quelque chose est permis, ils vont dire non, ça c'est haram. D'accord? Mais bon, ça se peut que certains vont le faire parfois par ignorance, mais c'est pas la règle. Puis on va pas faire une secte pour ça. Par contre, il y a des gens qui ont dévié parmi les sectes, qui ont dévié dans la croyance, et dans la aqidah, et dans le manhaj, et dans les règles aussi. Comme par exemple chez les Rafida. Hein? Tu vois qu'ils vont adorer, par exemple, Ahlul Bayt, ou bien ils vont adorer leurs 12 imams, puis ils vont insulter les Sahaba et faire le shirk avec Ahlul Bayt. Puis par la suite, ils vont dire, par exemple, bon, le mut'a c'est halal, c'est le mariage temporaire. On dit, ah, on peut se marier pour 2 jours, 2 heures, une semaine, puis après le mariage est fini. Donc ça, c'est des choses, eux, ils vont permettre ces choses-là, alors que c'est des choses haram. Hein? Mais ça, c'est une de leurs déviations parmi d'autres. Parce que c'est des gens qui ont dévié dans les fondements de la croyance et dans l'islam. Aussi, tu vas trouver, par exemple, chez eux, le fait qu'ils ne vont pas croire, par exemple, que c'est permis de faire al-mas' al-khufayn. Comme par exemple de passer les mains mouillées sur les chaussettes au lieu de laver les pieds dans le wudu. Donc eux ils croient pas en ça les chiens, les rafida. Donc ils renient alors que c'est permis de le faire et ça fait partie de la sunna. Donc ça c'est des exemples comment tu vas trouver chez certaines sectes des égarements comme ça et à un tel point que même ces éléments là sont mentionnés parfois dans les livres d'Aqidah. Le sunna. Les ulama ils vont les citer ces exemples-là. Pourquoi? Parce que c'est des contradictions trop apparentes avec la sunna qui les distingue des gens d'Ahl sunna wal jama'a. D'accord? Donc ça c'est un exemple par rapport à ces choses-là et c'est pour ça que ça rentre dans al-ghulu. ça rentre dans Al-Ghulu, qui ressemble à l'extrémisme des juifs et des chrétiens. C'est, on a des bons exemples ici. Après le cheikh, il dit « Wa min al-ghulu al-muhlik al-ghulu bil-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar fa inna al-mu'tazila ghalu fihi hatta kharaju 'ala wulat al-umur bi hujjat inkar al-munkar fa min usulihim al-khamsa al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar bi ma'na al-khuruj 'ala wulat al-umur idha badara minhum ma'siyah بدر منهم معصية أو مخالفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط ومعايير وحدود شرعية وشروط لا يجوز تجاوزها لا يجوز تجاوزها il dit ensuite والبعض قد يرى أن في فعله صواب وأنه خير ولو تجاوز الحد ولكن الخير كل الخير فيما شرع الله وفق هدي رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples d'extrémisme et d'exagération qui amènent à la perdition, il y a le fait d'exagérer dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal. Il dit les Mu'tazila, par exemple, une secte parmi les sectes des Garmin, ils ont exagéré dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, au point de vouloir même se révolter et sortir contre les dirigeants musulmans, sous prétexte qu'ils veulent condamner le mal et dénoncer le mal. Et parmi leurs cinq fondements, les Mu'tazila, ils ont établi leur religion sur cinq fondements. Et un de ces fondements-là, c'est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Ça veut dire al-khuruj ala wulat al-umur. C'est-à-dire, tu dois te révolter contre les responsables musulmans, contre les dirigeants, lorsqu'ils font un péché ou qu'ils ont une contradiction quelconque avec la religion. Et le cheikh, il explique que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, elle est gérée par, ou elle est régie par des principes et des limites et des règles. Et des conditions dans la charia. Et il n'est pas permis de dépasser ces conditions-là, et ces règles-là, et ces principes. Donc, le cheikh, il dit, وَالْبَعْضُ قَدْ يَرَى أَنَّ فِي فِعْلِهِ صَوَابٌ وَأَنَّهُ خَيْرٌ وَلَوْ تَجَاوَزَ الْحَدِ. Il dit, ça se peut que certains pensent que c'est pas grave de transgresser ou de dépasser les limites, et qu'il y a du bien quand même, même si tu dépasses les limites. Le cheikh il dit, par contre, le bien, et le bien entier, au complet, c'est de se limiter dans qu'est-ce que Allah a légiféré, selon la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager et son prophète. Donc tu dépasses pas ça. Et le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu wa iyyakum wal ghulu fi ad-din al maqsoud. وإن كان النهي عن الغلو جاء في مسألة حصل جمار بأن لا يرمي الحاج بحصى أكبر من حصى من الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحكم العام فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو الغلو هنا عام لأن الألف واللام للاستغراق الألف لام الاستغراقية تمثل أو يعني تتمثل في جميع أنواع الغلو وفي جميع أمور الدين. Donc le cheikh il dit ici que quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit donc que tu dois prendre garde à l'exagération et à l'extrémisme dans la religion, que ça c'est général. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par général? C'est-à-dire que l'interdiction de l'extrémisme et de l'exagération, c'est pas seulement dans les questions qui ont rapport avec les cailloux que tu dois ramasser pour le hajj, lorsque tu lances pour les jamarat, mais c'est général, c'est-à-dire dans tous les différents aspects de la religion, que ce soit dans les croyances ou dans les pratiques, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyakum wal rolo, le al ici, quand il dit wal rolo, al-alif wal lam, c'est l'article qui rend défini. Hein, le mot qui suit, c'est-à-dire al rolo. Donc, c'est pas n'importe quel extrémisme, c'est l'extrémisme en lui-même, dans son sens absolu, et ça implique toutes les différentes formes d'extrémisme qui sont reliées à la religion. Donc tout ça c'est interdit sans exception. Et le cheikh il dit ensuite فَالدِّينُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ تَوْقِيفِ وَمُبَيَّنٌ بِالْأَدِلَّةِ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله وإقراره فما على المسلم إلا أن يتفقه في دين الله وأن يعرف المشروع والممنوع حتى يؤدي العبادة على أصولها وعلى حدودها الشرعية. Donc le cheikh explique que la religion, par la grâce d'Allah, c'est quelque chose qui est tawqifi, dans le sens que tu dois t'arrêter au texte et aux preuves de la révélation dans la religion. Et yani, les preuves des actions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les preuves sont tirées des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il a fait et de ce qu'il a approuvé. Et donc le musulman, il doit, pour connaître ça, il doit uniquement étudier sa religion, qui est la religion d'Allah, pour savoir ce qui est légiféré, ce qui est interdit, et pour qu'il puisse établir l'adoration d'Allah selon les fondements de l'adoration et les limites et les définitions de la charia. Il dit ensuite وَقَوْلُهُ وَالْغُلُوُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ هَذَا تَعْرِفُ الْغُلُوُ بِأَنَّهُ الزِّيَادَةُ فِي الشَّيْءِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ وهو من قولهم غلا القدر غلا القدر غلا القدر إذا زاد يعني غلي الماء فيه بسبب النار حتى يرتفع ويطيش يطيش الماء. أما من ناحية الشرع فالغلو هو الزيادة في الدين بإحداث شيء على غير ما شرعه الله تعالى أو الزيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى على وجه التقرب إلى الله بزعم صاحبه. والله جل وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو غلو النصارى في المسيح حين مدحوه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية. Donc le cheikh il dit la définition du mot rouleau en arabe signifie de dépasser la limite. Ça c'est une des définitions qu'on donne par rapport au terme rouleau, c'est-à-dire d'ajouter quelque chose à la religion, hein, d'ajouter quelque chose à la religion. Et il dit que linguistiquement le mot rouleau vient de yani rala al-qidr, c'est-à-dire yani comment on appelle en français al-qidr, c'est une bouilloire dans laquelle on fait bouillir de l'eau. Souvent quand on veut faire du thé, hein, on prend de l'eau puis on met la bouilloire, hein, sur le feu ou yani, peu importe, et on le met donc jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. Et quand l'eau commence à bouillir, on voit que parfois le couvercle même commence à sauter, même que parfois il y a de l'eau qui éclabousse même de l'extérieur de cette bouilloire. Bon, cette action de l'eau lorsqu'elle bouille, hein, c'est ça qu'on appelle ghala en arabe. Donc ghala al-qidr, c'est-à-dire la bouilloire a commencé à bouillir, et cette action de l'eau qui bouille, c'est ça qu'on appelle ghala. Et donc al-ghulu, ça vient de cette signification, c'est-à-dire lorsque quelque chose commence à sortir de ses limites, commence à bouillir comme l'eau. Mais dans le sens de la charia, qu'est-ce que ça veut dire al-ghulu? Le cheikh il dit que c'est d'ajouter quelque chose dans la religion, d'ajouter dans la religion en inventant quelque chose ou en faisant quelque chose qui n'est pas fait selon la manière dont la chose a été légiférée. Tu l'as fait, mais tu l'as fait pas comme l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ou bien tu ajoutes à ce que Allah a légiféré dans le but de te rapprocher d'Allah, selon la pensée de la personne. Qu'est-ce qu'elle s'imagine être une cause de rapprochement d'Allah? Et le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas satisfait de qu'est-ce que tu fais au nom de la religion, excepté si c'est légiféré par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les exemples de rouleau, il y en a d'extrémisme et d'exagération, il y a le rouleau des chrétiens à propos de Jésus le Messie, qu'ils ont glorifié au point de l'élever au degré de divinité. Martabat al-Uluhiyya, ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Allahumma sta'an. Donc ça c'est une forme de rouleau, comme on disait tout à l'heure. Il dit wa min al-ghuluwi kadhalik al-ghuluw fi madh nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hatta yurfa'u ila martabati al-uluhiyya kama taf'al al-mutasawwifa wal-quburiyya alladhina yaqulu qa'iluhum يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا غلو وإطراء بحق النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que le al-ghulu, l'exagération, l'extrémisme, ça existe également chez les musulmans comme chez les chrétiens parfois qui ont exagéré dans la glorification de Jésus, et bien il y a des musulmans qui ont exagéré dans la glorification du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au point de l'adorer en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit que c'est l'exemple des soufis, des soufis et des adorateurs de tombes. Ceux parmi eux qui adorent les tombeaux et les morts, et les prophètes qui sont morts dans leur tombe, ils les adorent en dehors d'Allah. Comme les chrétiens font avec Jésus, fils de Marie. Alors que Jésus, fils de Marie, a été élevé dans les cieux, malgré ça, on n'a pas le droit de l'adorer. On n'a pas le droit de l'invoquer. Même s'il n'est pas dans sa tombe. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est décédé, enterré dans sa tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas le droit de lui demander ou de l'invoquer, dans quoi que ce soit. Mais malheureusement, les soufis, parmi les musulmans, ou ceux qui se disent musulmans, il y a parmi eux des qubouriyin, des adorateurs de tombes et de morts. Et ils disent dans un poème qu'ils ont écrit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le glorifier. Et ça c'est un poème qui est très populaire et qui est récité comme une chanson que les soufis chantent entre eux à chaque année pour célébrer ce qu'ils appellent al-mawlid nabawi, yani pour célébrer la bid'a de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un poème de al-Busayri qui s'intitule al-Burda, al-Burda, Et donc, chaque année, quand c'est yani, le mois de Dhul-Hijjah, pardon, Rabi' al-Awwal, na'am, jazakallahu khairan, justement, ils viennent de le faire, yani, je pense que ça fait deux ou trois semaines, ils ont célébré cette innovation, cette bid'ah. Et dans cette célébration, ils chantent ces paroles qui sont mentionnées justement dans ce poème qu'on appelle Al-Burda. Ça dit « Ô toi la plus noble des créatures » parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô toi la plus noble des créatures, qui aurais-je en dehors de toi ou autre que toi en qui je pourrais me réfugier le jour de la grande événement ?» Le jour du grand événement, du grand incident. C'est-à-dire au jugement dernier. Hein? Ô toi la plus noble créature, qui pourra me protéger ou qui, vers qui je vais pouvoir me réfugier au jour de la résurrection autre que toi? Ça c'est du shirk. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te protéger et qui peut te, en qui tu peux te réfugier au jour de la résurrection. Seulement Allah. Pas les créatures, pas les prophètes, pas les anges, pas les messagers. Et donc tu dois chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en, hein, en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Quand tu dis a'udhu, tu dis pas a'udhu bi Muhammad, tu dis a'udhu billah. Hein? Et quand tu dis a'udhu, c'est la même chose. A'udhu wa a'udhu, ça veut dire la même chose. Donc tu vas pas dire a'udhu bi Muhammad, tu dis a'udhu billah wa a'udhu billah. Hein? Et donc ici il dit ensuite wa illam yakun, hein, wa illam yakun fi ma'adi akhizan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallat al-qadami. Ça veut dire si il va pas être là ce jour-là, au jour de la résurrection, pour me prendre par la main, par sa grâce, sinon, hein, dit, yani, je vais glisser, mon pied va glisser, ça dit, je vais tomber. C'est seulement, hein, le prophète Hassan qui pourra me sauver ce jour-là. Ça, c'est du shirk. C'est clair, c'est du shirk. Et eux, ils récitent ce poème, ils chantent ça dans les fêtes. Hein. Ils le chantent avec les belles voix, comme des, hein, chanteurs. En arabe, oui. En arabe. Et même tu vas écrire Al-Burda, tu vas aller sur YouTube, tu vas écrire Al-Burda, tu vas voir des vidéos où ils chantent ça, tous en groupe. Alhamdulillah. Et ils disent des paroles de shirk dedans, mais ça ne les dérange pas. Et ça c'est juste un poème des soufis. Mais il y en a d'autres, il y en a des milliers comme ça. Même pire que ça même parfois. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit dans l'autre vers aussi, dans Al-Burda? Il dit « فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا » وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Ça veut dire yani, parmi tes merveilles il y a la vie d'ici-bas et l'au-delà. Darrataha. Darra c'est le nom qu'on utilise pour décrire la seconde épouse. Quand quelqu'un il a une épouse, hein? Quand quelqu'un il a une seconde épouse, il l'appelle, on l'appelle Darra, Ad-Darra. Darra, c'est-à-dire elle nuit à la première, quelque chose comme ça, c'est comme l'idée que. C'est le nom que les gens emploient pour définir ou pour désigner la deuxième épouse. C'est comme si la Dunya, c'était la deuxième épouse de la vie de l'au-delà. Hein, comme si on va dire, vous comprenez, c'est poétique un peu. Donc parmi tes merveilles il y a cette vie d'ici-bas, comme si le monde était une merveille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que chez les soufis il y a l'idée que le monde a été créé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cette idée là qu'est-ce qu'ils appellent al-haqiqa al-muhammadiyya, ou bien nour al-muhammadiyya, que Allah a créé une lumière, a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la lumière, puis à partir de cette lumière il a créé le monde entier par la suite. Il y a des idées comme ça chez les soufis, Allah Musta'an, parmi les égarés. Et il dit donc parmi tes merveilles, il y a cette vie d'ici-bas et yani sa co-épouse, l'au-delà. Et parmi tes sciences, c'est-à-dire parmi tes sciences, c'est pas ta science, non, mais une partie de ta science. Et c'est la science de la table préservée et la plume avec laquelle Allah écrit la prédestination et tout ce qu'il y a qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une partie seulement de la science du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le règle, il connaît ce qui est sur l'Lawh al-Mahfouz, il connaît tout. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, قل وإن كنت لو كنت أعلم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. C'est-à-dire Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, si je connaissais le ghaib, si je connaissais l'invisible, j'aurais fait venir vers moi beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait touché. Pourtant dans la bataille de Uhud, il a été blessé, hein, et les morceaux de son casque sont rentrés dans ses joues et il s'est fait casser deux dents, hein, pendant la bataille. Donc ça c'est la preuve que il connaît pas le rey. S'il connaissait le rey, il aurait su que il allait être frappé, il allait avoir ces coups là et puis il aurait pas subi ça, hein, et plein d'autres choses aussi. Donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas le rayb. Il n'a jamais même prétendu connaître le rayb. Hein? Et même une fois, il y avait, je ne sais pas si c'était le Eid ou bien c'était un mariage ou quoi. Et il y a une petite fille qui chantait, hein, dans l'Eid. On sait que c'est permis pour les jours de Eid que les filles, les petites filles, elles tapent le douf. Et elle chante des comptines ou des petites chansons arabes innocentes, hein, pas qu'est-ce que les chanteurs spécialistes là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les chanteurs professionnels d'Anachid, hein, qu'est-ce qu'ils font comme musique, une musique islamique comme ils l'appellent. Non, des petites filles, même pas pubères, qui tapent le douf et qui chantent des petites chansons lors du Eid ou bien un mariage. Elle tape le douf entre les femmes. Parmi les paroles qu'elle disait, elle disait « Wa ya'lamu ma fi ghadi ». Il sait qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Il lui a dit « Non, je ne connais pas qu'est-ce qui va arriver demain. C'est seulement Allah. » Hein, ou quelque chose comme ça. Donc, pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais prétendu et il n'a jamais dit qu'il connaissait le rayb, bien au contraire. Et même Allah, il mentionne dans le Coran que personne dans les cieux et la terre ne connaît le rayb, excepté Allah. Il y a des versets explicites à ce sujet-là. Et il dit ensuite, فَهَذَا غُلُوْ وَإِطْرَاءٌ بِحَقِّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى أَنَّ الْقَائِلُ نَسِيَ اللَّهِ وَقَالَ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكِ مَعَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسْتَعَانِ وَهُوَ الْمُسْتَغَاثِ وَهُوَ الْمُلَاذِ وَالْمُعَاذِ. الملاذ يعني هو الملاذ سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه إلى أن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل العلم من علمه صلى الله عليه وسلم حتى علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير وأن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الغلو في الذم والأصل أن الذم أن يذم المرء إذا كان مستحقا للذم بقدر ما فعل ولا يزاد في ذمه على عن الحد المطلوب. Donc le cheikh il dit ensuite, donc ça c'est comme j'ai expliqué, yani tout ça c'est de l'extrémisme et de l'exagération à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à oublier Allah et de dire que personne ne peut te sauver excepté toi, c'est-à-dire le prophète. Ça c'est grave, Hein? Parce que c'est Allah qui te préserve, c'est Allah qui te protège, qui t'aide. C'est lui que tu appelles lorsque tu as besoin de secours. C'est lui en qui tu cherches le refuge et la protection. Et c'est à lui que tu demandes protection et yani c'est yani wala yujaru alayhi. Hein? Et il dit jusqu'à ce qu'il attribue même au prophète sallallahu alayhi wa sallam toute la science comme faisant partie de sa science, même la science yani de la table préservée et de la plume par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la prédestinée, hein, des créatures. Et jusqu'à dire que la dunya et l'au-delà font partie des merveilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est du rouleau, c'est de l'extrémisme. Il dit l'extrémisme peut aussi être dans le fait de vouloir blâmer ou critiquer quelqu'un plus que qu'est-ce qu'il mérite comme blâme selon ce qu'il a fait, et d'exagérer ou d'ajouter dans le blâme, hein, en dépassant la limite. Et il dit وقوله والنصارى اكثر غلوا في الاعتقادات والاعمال من سائر الطوائف المقصود ان اليهود اشد الناس تساهلا في احكام الله سبحانه وتعالى والتفريط فيها حتى انهم استحالوا احتالوا على اكل الربا واحتالوا لما حرم الله عليهم لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت بأن ألقوا الشباك يوم يعني الشباك يوم السبت الشباك نعم الشباك يعني الشباك سي لي فنتر كما يجي يديز aujourd'hui les fenêtres الشباك الشباك يوم السبت وأخذوا الصيد يوم الأحد فهم أهل حيل ومكر وخديعة للتخلص من دين الله وأوامر الله ويشبههم من هذه الأمة من يفعل هذه الأفعال للتخلص من الأحكام الشرعية بالحيل والعياذ بالله. أما النصارى فمن سمتهم الغلو والزيادة على عكس ما عليه اليهود، ومن ذلك الرهبانية التي ابتدعوها والغلو في المسيح عليه السلام، حيث قال الله عز وجل لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي لا تغالوا في الإطراء والمدح، فإن عيسى ليس إله ولا ثالث ثلاثة بل هو عبد الله ورسوله. Donc le cheikh il dit que quand Ibn Taymiyyah a dit que les chrétiens c'est ceux qui ont le plus d'extrémisme dans les croyances et dans les pratiques par rapport à tous les autres groupes et les autres religions, qu'est-ce qu'il veut dire? Le cheikh explique, cheikh Al-Fawzan, il dit que les chrétiens eux c'est les gens les plus laxistes, les juifs c'est les plus laxistes par rapport aux chrétiens. Et des fois on trouve, si on voit aujourd'hui comment certains juifs sont, on se dirait ah mais c'est eux qui au contraire ils semblent être les plus extrémistes parce qu'ils ont plein de règles difficiles, hein, dans leur religion et tout. Sauf que le cheikh il explique qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il dit les juifs sont les plus laxistes dans la religion. Pourquoi? Parce que ils ont toujours des moyens d'essayer de rendre halal ce qui est haram, comme ils ont rendu licite les intérêts, hein, le riba, et également ils ont toujours des ruses pour se détourner ou pour se faufiler et essayer de yani se permettre ce que Allah a interdit, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit aux juifs de travailler ou de pêcher le samedi. Vous ne devez pas pêcher ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des filets, hein? Ils mettaient des filets, puis ils prenaient pas les poissons ce jour-là. Ils attendaient le lendemain pour les prendre. Allah les avait éprouvés par le fait que le poisson venait juste ce jour-là, le jour de repos, le jour du sabbat. Et eux, ils ont vu ça, donc ils ont mis les filets, puis ils n'ont pas travaillé ce jour-là, mais le lendemain, il allait les prendre, les poissons. Donc ça, c'est une ruse, hein, c'est une forme de ruse. Et ils voulaient, en utilisant ce genre de ruse et de ce genre de trahison, et aller se débarrasser des ordres d'Allah et de la religion d'Allah. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe « al-hiyal ». C'est des formes de ruse. Hein. Il y en a qui essaient de jouer avec la religion d'Allah de cette façon-là. Et les chrétiens, c'est le contraire. Les chrétiens, eux, ils ont une de leurs caractéristiques, c'est toujours d'être extrémistes et de vouloir exagérer et de faire plus, hein, de rajouter dans la religion, contrairement aux juifs, qui, eux, essaient toujours justement de faire la facilité. Et beaucoup de gens, même souvent parmi les musulmans, ils reconnaissent pas ou ils réalisent pas que les juifs sont comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens de ruse, puisque c'est des gens qui se détournent des ordres d'Allah. La raison pourquoi ils ne réalisent pas, c'est parce qu'ils pensent que seulement ceux parmi les juifs qui ont une apparence religieuse ou qui ont leur apparence à eux religieuse, comme qui par exemple portent des chapeaux, des habits noirs et ainsi de suite, ils pensent que ce sont seulement eux qui sont juifs, alors que ceux parmi les juifs qui portent ces habits là sont une minorité parmi les juifs. La grande majorité des juifs, si tu les vois marcher dans la rue, tu vas pas savoir s'ils sont juifs ou chrétiens, parce qu'ils ont aucun signe apparent de religion, parce qu'ils ne pratiquent pas, hein, ces choses-là. Et ceux qui portent la kippa, par exemple, le petit truc rond là, en arrière de leur tête, ça c'est une minorité. Parmi les juifs qui portent ça, la majorité des juifs, ils ne portent pas aucun signe religieux distinctif. Hein. Donc si tu les vois marcher dans la rue, tu vas dire, ah, c'est des chrétiens, ou c'est des gens, des athées ou autres. Alors qu'en réalité, c'est des juifs, mais ils ne le montrent pas. Et c'est la majorité. Hein? Et ils ne mangent pas cachère. Hein? Et puis, ils ne vont pas, par exemple, faire qu'est-ce que les juifs religieux font. Mais ils sont tous juifs quand même. Hein? Beaucoup d'entre eux sont juifs quand même. Donc, il ne faut pas s'imaginer que seulement les... Même ceux qui font ces apparences de judaïsme, là, comme les vêtements, comme je te dis, ceux qu'on appelle les orthodoxes ou les hassidim parfois aussi, que ce sont juste eux qui sont les juifs. Non, il y a plein de juifs qui sont pas du tout pratiquants de quoi que ce soit, puis ils cherchent toujours des moyens pour se faufiler. C'est comme par exemple, il y en a, je me rappelle, j'habitais dans un autre quartier à un moment donné, puis qu'est-ce qu'ils font, par exemple, ils croient qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité le samedi. Samedi, ils n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité. À partir du coucher de soleil le vendredi, jusqu'au coucher de soleil le samedi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, par exemple, s'il y a quelqu'un qui passe près de chez eux, ou le facteur ou quoi, qui n'est pas juif, ils vont lui demander, est-ce que tu peux allumer la lumière pour moi? Est-ce que tu peux faire ça, oui? Hein? Ou bien parfois ils veulent monter dans l'immeuble. L'immeuble, c'est un immeuble avec plusieurs appartements. Ils ne peuvent pas sonner la sonnerie parce que c'est avec l'électricité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent devant la porte. Ils attendent que quelqu'un vienne pour ouvrir la porte. Quand quelqu'un rentre, ils rentrent avec lui. Et des fois, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, il y a toutes sortes de trucs là. Mais c'est pour dire que ils ne peuvent pas prendre leur voiture aussi. Ils n'ont pas le droit de conduire. Plein d'autres affaires comme ça. Donc, mais ils trouvent des moyens de passer à côté comme ça. Hein? Donc, ça c'est des exemples. Mais les chrétiens sont plus extrémistes. Et ça c'est une chose là, aujourd'hui, comme je disais souvent dans les cours précédents, je disais, les chrétiens ils veulent toujours montrer que c'est des gens de l'amour, de la paix, qui sont toujours doux, gentils, qu'ils aiment tout le monde. Et pourtant, tu vois, dans l'histoire du christianisme, et à travers leur histoire, puis à travers, même encore aujourd'hui, c'est des gens, extrémistes. Tu peux pas imaginer à quel point. Hein? Et c'est les émotions, 100%. C'est-à-dire, ils se basent pas sur la raison ou la compréhension, l'intelligence. Non. C'est purement et uniquement les sentiments, les émotions, et c'est juste ça qui les gère, qui les dirige. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné justement yani, à propos des chrétiens, non seulement à propos du monachisme ou à propos de l'exagération qu'ils ont après à propos d'Isa, mais il mentionne ces exemples-là dans le Coran aussi, comme le verset 171 dans Surat An-Nisa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « N'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas à propos d'Allah autre que la vérité. » Le Messie, Jésus, fils de Marie, est un messager d'Allah. C'est-à-dire, n'exagérez pas dans sa glorification yani, et ne dites pas, yani, par exemple, que Isa alayhi salam c'est un dieu ou une divinité ou quelqu'un qui mérite d'être adoré ou qu'il ferait partie d'une trinité avec Dieu ou bien qu'il serait un fils de Dieu ou des choses comme ça. Non, ça c'est des faussetés, c'est des choses mensongères et fausses. Mais la vérité c'est que c'est un serviteur d'Allah et un messager. Ça c'est la vérité. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on expliquera la suite au prochain cours inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.